Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau, le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijo, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijo, c'est une marque française créée par deux amies d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et autres compléments fabriqués en France. Ça aussi, c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants, parce que oui, les bactéries, c'est vivant. Je vous recommande d'aller voir sur leur site dijo.fr, D-I-J-O. Vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre. Et du 13 au 26 mai, vous bénéficierez de moins 20% sur les packs. Après, vous pourrez avoir des papillons dans le ventre. Mais en attendant, il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. S'il y a bien une conclusion qu'on peut tirer de toutes les histoires qu'on écoute dans Aix, c'est que les plus beaux scénarios ne sont pas forcément ceux des films d'amour du cinéma. Et oui, Nolwenn va encore une fois vous prouver que les plus belles comédies romantiques sont celles de la vraie vie.
Je m'appelle Nolwenn, je suis née en Bretagne, d'où mon prénom. Et j'ai grandi à La Réunion, j'ai fait ma primaire, mon collège là-bas. Et ensuite, j'ai vécu à Toulouse pour terminer à Paris. Mais entre-temps, je suis allée faire fille au père aux États-Unis parce que j'étais très, très rêveuse de tout ce qui est comédie musicale. Donc, j'ai vu Broadway, j'ai été serveuse là-bas. Et d'ailleurs, j'ai vu les affiches d'une comédie musicale qui s'appelle Mamma Mia et qui commençait à l'époque en 98 ou 99. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, j'ai regardé West Side Story à la télé. Je voulais être comédienne, c'est sûr, mais quand j'ai vu qu'on pouvait à la fois jouer et chanter, je suis devenue complètement accro. Ça a été un déclic. Et je m'y suis mise en arrivant à Paris parce que je me disais que la France, c'est pas trop notre culture. Mais finalement, quand je suis rentrée des US, les écoles étaient ouvertes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'arrive à Paris. Mon rêve, c'est de jouer, absolument. Et quand je vois qu'il y a des écoles de comédie musicale qui sont ouvertes, je fais ma formation et je me dis, j'ai 3 ans pour me former en jeu, en chant, en danse. Et après, j'irai frapper aux portes et passer les castings. Moi, j'ai commencé au Centre des Arts Vivants. Je me sens hyper bien en jeu parce que je me sens plus comédienne à la base. Et je découvre le chant. Et là, c'est un peu difficile parce que les personnes qui sont autour de moi chantent depuis très très longtemps. Certains depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Et moi, je découvre un peu. Mais comme je chante juste, on m'accepte dans l'école. Et en fait, la passion de mélanger le jeu et le chant vient assez vite. Notamment, je me souviens, pendant les évaluations, j'étais hyper stressée. Mais dès que je commençais à jouer un rôle et à chanter avec, tout s'envole et on vit le truc à 100% et on a les frissons et on se dit qu'on est à sa place, quoi. Je savais que j'étais au bon endroit. Au bout de 2 ans, Disney vient nous voir à l'école et on a la chance d'avoir des directeurs de casting en fait qui viennent voir un petit peu les talents qui se trouvent sur place. J'ai mon premier contrat et j'ai la chance ensuite d'auditionner pour une comédie musicale, un spectacle musical français qui a fait énormément de succès, qui marche encore maintenant, qui s'appelle Chance d'Hervé de Volder. Et là, je suis prise parmi de nombreux comédiens chanteurs puisque beaucoup de gens tournent sur cette comédie musicale. Et je me fais les armes sur cette comédie musicale qui est peut-être ma préférée depuis le début. La difficulté, en revanche, quand on est là-dedans, c'est qu'on se noie un peu dans le travail et on laisse pas trop de place à tout ce qui est relation amoureuse. Mais se présente un jour un Belge Et pendant 4 ans, je reste avec cette personne. Mais justement, un soir où je joue dans Chance, il est censé me rejoindre et il ne me rejoint pas parce qu'il fait un accident de voiture très très grave en venant de Belgique. Et là, je décide de vriller et je ne m'occupe que de lui. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, je passe ma vie entre la Belgique et la France, l'hôpital, mon appart. Et je mets un peu de côté tout ce qui est audition, tout ça, et je deviens un peu infirmière. Je me fiance avec cette personne, et puis finalement, il est dépressif, ça va pas bien, et on décide de se séparer, la mort dans l'âme, puisque j'étais amoureuse. Et là, je me dis, au bout de 4 ans, entre-temps, j'ai rien fait. Donc là, je me relance à fond, en célibataire, sur ma profession, et je me dis, peut-être que je tomberai sur quelqu'un d'autre plus tard, mais c'est pas la priorité. Chance parce que dans l'entreprise Disney, ils sont très fidèles. Donc je réauditionne, je revois des metteurs en scène que je connais. Alors évidemment, il faut remontrer un peu ce qu'on sait faire, donc on retravaille comme des fous. Donc j'ai la chance de retravailler là-dedans, donc je fais une bonne année chez Disney dans un show avec Mickey et je me remets à travailler petit à petit. Et je vois qu'il y a des auditions pour Mamma Mia, qui est quand même une grosse, grosse comédie musicale. Du coup, je repense à quelques années auparavant où j'étais fille au père à New York, puis serveuse, et où je voyais les affiches de Mamma Mia s'installer devant moi. Et là, je me dis, il faut que je tente ma chance. Donc du coup, je passe l'audition de Mamma Mia, mais pour le rôle de la fille. Je devais avoir 25-26 ans, et il faut avoir 20 ans à peu près. Mais comme je fais jeune, je me dis, ça passe. Et je ne suis pas prise. Donc là, je me dis, c'est le lot des castings, on n'est jamais forcément pris. Donc je laisse passer ma chance. L'année suivante, ils refont des auditions. Je n'auditionne pas, puisque je me dis que je ne correspond pas. Et j'auditionne pour Avenue Q, une autre comédie musicale du moment. Et la directrice de casting qui me voit faire mes auditions, elle est anglaise, alors elle me dit avec son accent, « Waouh, mais c'est super! Mais pourquoi tu n'as pas auditionné pour Mamma Mia? Parce que je gère Mamma Mia aussi. » Et je lui dis, « En fait, j'ai déjà auditionné l'année dernière, j'ai pas été prise, donc je pense que je ne correspond pas. » Elle me dit, « Non, mais pas pour le rôle de la fille, pour le rôle de la mère !» Et là, je la regarde, je lui dis, mais je suis jeune encore. La maman dans Mamma Mia, elle a une 40aine d'années, moi j'en ai 30. Je me dis, non, c'est pas pour moi, quoi. Elle me dit, oui, mais c'est pour faire doublure, pour avoir à la fois l'air jeune et à la fois l'air plus âgé. Donc tu devrais le faire. Donc je lui fais confiance, je passe les auditions un peu les mains dans les poches en disant, ça ne passera pas. Et au final, je suis prise à la fois pour Mamma Mia en doublure, maman, donc Donna Sheridan, et Tania, à l'époque, qui est la cougar du show. Et pour être dans l'ensemble, donc chanteuse, danseuse. Quand une comédie musicale étrangère vient s'installer en France, c'est ça que je veux faire, moi, en fait. Donc je fonce, et en plus, c'est une histoire que j'aime, que j'apprécie, et qui parle à tout le monde, donc qui me correspond bien, je pense. Alors j'ai la chance d'être prise dans Mamma Mia, je commence à rencontrer un peu tout le monde, et je me dis, c'est parti pour une année, c'est pas maintenant que je vais rencontrer quelqu'un, puisqu'on travaille du mardi au dimanche, on répète la journée. Donc, on a un jour off le lundi et on n'a pas spécialement envie de sortir. Donc, on regarde toujours un peu autour de nous, mais je ne suis pas très, très attirée généralement par les comédiens qui sont avec moi parce que c'est difficile de sortir avec quelqu'un du même milieu. Quand on sort de là, en tout cas, moi, personnellement, j'ai aussi besoin d'avoir une vie à part et de parler d'autre chose que du spectacle. Et donc, dans ma tête, j'espère rencontrer quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Donc, je regarde un peu chez les ouvreurs, mais déjà, il y en a un qui est pris. Et voilà, j'ai pas de coup de cœur, donc je me dis, je vais me mettre à fond dans le travail et je vais vivre ma passion, en tout cas pour cette année. Et le show commence, je fais le rôle de Donna une fois. Un mois se passe et un jour, Sophie Delmas, qui est le rôle principal, perd sa voix en plein milieu de show. Et moi, je suis cachée derrière le décor et on me dit, Nolwenn, faut que tu sois prête parce que tu vas la remplacer dans la deuxième partie du show. Alors je me dis, waouh, elle a une 40aine d'années, petite brune. Moi, je suis grande, blonde, plus jeune. Les gens ne vont rien comprendre. Mais bon, je le fais, ça se passe très, très bien. Et du coup, la production me propose de faire la semaine complète. Donc, très contente, je rejoue. Et 2 jours après, le théâtre est privatisé par HP, une boîte informatique très connue. Et on sait qu'on va avoir 1600 businessmen, hommes et femmes confondus, mais avec une majorité d'hommes, qui vont venir nous voir ce soir-là. Donc je chante, et à la fin, on est un peu en mode concert, et d'habitude je dis « Comment ça va à Paris ?» Et là je dis « Comment ça va à HP ?» Et j'ai une foule qui me répond, et dans ma tête je me dis « Il y a bien quelqu'un pour moi là-dedans » Parce qu'en général, dans ce genre d'événement, comme c'est vraiment privatisé, on nous propose à nous, artistes, de venir passer un petit moment avec le public, à la fin, dans le hall, et on prend une petite coupe de champagne, des petits fours, et on discute. C'est un peu la respiration pour nous. Donc j'espère, à ce moment-là, rencontrer quelqu'un. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'une de mes collègues, une de mes amies, me dit à ce moment-là, « Écoute, Nolwenn, je vais te trouver ton Xavier ce soir. » Et je lui dis, « Ah bon, pourquoi Xavier ?» Et elle me répond, « Bon, je sais pas, c'est sorti comme ça, mais en tout cas, je vais te le trouver. » Et on part pour la soirée. Donc il y a beaucoup d'hommes dans cette soirée, je flash sur l'un d'entre eux, je vais le voir avec ma copine qui me prend par la main comme à l'école, et puis je me rends compte qu'en fait il est pris et que sa chérie est dans le théâtre en plus, donc je laisse la place. Et dans ce groupe-là, l'un d'entre eux nous dit, ah, on fait une after dans un bar après, venez avec nous. Je fais, non, moi demain, je travaille toute la journée, le soir. En plus, il y avait une tempête, moi j'étais en scooter, je me dis, non, c'est pas sérieux. Il insiste, il me dit, allez, venez, emmenez vos copains, ce sera pas long, on fait la fête ensemble. Du coup, je vais voir quelques amis et je leur dis un peu en cachette, en espérant que mon metteur en scène ne m'entende pas. Ça vous dit de faire une after dans un bar? On le fait jamais, allez, c'est pour une fois, on n'a qu'une vie. Et ils me disent, ah ouais, où ça? Je dis, au MKP, c'est juste derrière. Et là, ma metteur en scène se retourne et me dit, au MKP? Ah, mais je connais super bien le proprio, je viens avec vous. Je dis, oh, bon, alors là, si la metteur en scène nous dit qu'elle vient avec nous, alors on y va. Et donc, on se retrouve là-bas et le bar est privatisé pour eux, blindé. Et au niveau du vestiaire, j'aperçois une silhouette qui dépose son casque et de dos, je me dis, ouais, il est vraiment pas mal, lui, il dégage quelque chose. Et un peu plus tard dans la soirée, je le revois et en fait, il fait la queue avec plusieurs personnes qui viennent me voir pour me féliciter d'avoir joué le rôle. Et donc, il arrive à moi et il me dit, ah, c'était vous le rôle principal? J'ai dit, oui. Ah, c'était super, j'adore les comédies musicales. Je voulais vous dire, vous étiez génial. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Et il s'en va. Donc je me dis, bon, ce sera pas pour ce soir. Et des collègues un peu éméchés viennent me voir et me disent, non, mais Nolwenn, t'as vu le beau gosse qui parlait avec toi, il t'intéresse pas? Je fais, si, mais apparemment, il doit avoir quelqu'un où il est pas intéressé, quoi. Et eux vont le voir et lui disent, notre copine, on la connaît depuis 10 ans, elle a flashé sur toi. Et là, donc ce garçon se dit, ah bon? Le rôle principal a flashé sur moi, non mais c'est pas possible. Donc il est un peu intrigué, il revient vers moi, on rediscute ensemble. Et là il me dit son prénom, il s'appelle Xavier. Et là je me dis non, c'est pas possible. Et je me dis non, faut pas que je reste là-dessus en fait. C'est pas parce que ma copine m'a dit que j'allais rencontrer mon Xavier que forcément c'est lui. Et en même temps, il me plaît, il a l'air hyper intéressant, donc bah discutons. Et ce Xavier, il est brun, les yeux verts, comme j'aime. Et puis, c'est pas forcément le physique que j'aurais choisi quand j'étais plus jeune, parce que moi, j'aimais bien les grands blonds aux yeux bleus. Mais non, mais il dégage un truc particulier, quelque chose de sympa, quelque chose de sain, surtout. Et voilà, c'est plutôt... Alors, c'est son physique, parce que je trouve que c'est un beau garçon et on me le dit. Donc, j'imagine que même sans mon recul, on voit que c'est quelqu'un de plutôt beau. Mais surtout, il dégage un truc qui me plaît vraiment. Donc, on papote. Il me dit qu'il s'appelle Xavier. Et un peu plus tard, il insiste sur le fait qu'il est en stage, que dans son stage, il fait ci, il fait ça. Et là, je me dis, mais pourquoi il insiste? Et là, arrêt sur image, je me dis, OK, d'accord. Il est stagiaire, donc il a 25 ans. Et moi, à ce moment-là, j'en ai 32. Et il est beaucoup trop jeune pour moi. Donc, et à ce moment-là, justement, lui me dit, par contre, je voulais vous dire, vous faites pas du tout votre âge. Hein. Donc je lui dis, ah bon? C'est-à-dire, bah, vous faites pas 40 ans? Et là, je lui dis, mais non, mais pas du tout. J'ai pas 40 ans, ça c'est le rôle du personnage que je joue, mais je n'ai que 30 ans. Et toi, donc, tu dois avoir 25 ans, non? Et il me répond, oui. Donc là, tout se brise. Et je lui dis, bon, bah, je vais rentrer chez moi parce que je travaille demain, c'est plus sérieux. Il me dit, ouais, moi aussi, je vais rentrer bientôt. Et là, je m'en vais, je prends mes affaires. Et un de mes amis éméché me dit, ah, Nolwenn, je suis un peu bourrée, est-ce que tu peux me mettre ton numéro de téléphone sur ma main, s'il te plaît? Je vais filer ton numéro. Donc je lui donne mon numéro et je m'en vais. Et le lendemain soir, après le show, j'ai un message vocal de ce fameux Xavier qui me dit, bon bah voilà, j'ai trouvé qu'on avait super bien accroché hier, je me permets de te demander si tu veux boire un verre après le show, demain, je serai là. Et là, j'oublie l'âge et je lui dis, ok. Et donc le lendemain soir, on se voit après le show, on va boire un verre avec tout le monde, et puis tout le monde s'en va en disant « on va fumer, on vous laisse ». Et on se retrouve à deux, et là il me dit « en fait, j'ai pas tout à fait 25 ans ». Donc je me dis « ah oui, t'as menti, donc t'es plus âgée ». Non. Ah bon, mais t'as quel âge? 24? Pas tout à fait. Je redescends un peu plus bas, 23? Ouais, j'ai 23 ans. Oh là là. Alors là, je me dis, bon, c'est pas trop mon genre, mais une histoire d'un soir, peut-être. À 30 ans, on peut se permettre. Et je me dis, on va aller plus loin, parce que quand même, vraiment, il est intéressant. Et puis, lui a l'air de rester aussi, en fait. Donc, il a l'air gêné, mais en même temps, il reste, alors qu'il sait que j'ai une trentaine d'années. Donc, on continue à discuter. Et puis, finalement, on se voit tous les soirs. On ne parle pas de cette différence d'âge, mais il vient tous les soirs, on boit des verres, on discute, ça se passe bien. Et puis il finit par m'inviter au restaurant pour mon jour off. Et là, il me sort le grand jeu, je suis obligée de vous raconter parce que c'est très drôle. Il pleut, il est en retard, et apparemment il supporte pas les retards, donc il m'appelle, il me dit « je suis bloquée dans les embouteillages, je suis dans le 8e ». Et je lui dis « bah le restaurant où tu voulais m'emmener, c'était pas dans le 8e, donc je te rejoins en métro si tu veux ». « Non, non, hors de question, je viens te chercher chez toi, j'avais dit que je venais, je viens te chercher, ok ». Il arrive avec genre une heure et demie de retard. Il pleut des cordes. Et en fait, il est avec la voiture que je croyais la sienne, mais non, qui est la voiture de sa maman, voiture décapotable. Il a voulu m'en mettre plein les yeux, en fait. La décapotable qu'il n'a pas pu ouvrir, évidemment, parce qu'il pleut. Mais il sort sous la pluie. Il vient m'ouvrir la porte pour que je rentre dans la voiture. Et là, je me dis, 23 ans, ça existe encore, cette galanterie? J'ai l'impression d'être dans un film, et en même temps, je me dis, c'est pas possible, ça existe pas. On est un peu sur ses gardes dans ces cas-là. On se dit, ouais, il me sort le grand jeu, mais ça veut rien dire. Mais c'est mignon, donc j'accepte. Je suis gênée, mais j'accepte. On arrive au restaurant, il m'ouvre la porte, il me tire la chaise. Je me dis, c'est quoi cette énergumène, quoi? Et là, on passe une excellente soirée. Il me ramène chez moi, on discute dans la voiture, et moi, forcément, à ce moment-là, j'attends le bisou, quoi. Et non, il me fait la bise. Je rentre chez moi, ma coloc, à l'époque, m'ouvre la porte. Elle avait éteint les lumières parce qu'elle regardait en cachette par la fenêtre. Elle me voit arriver avec un énorme sourire. Elle me dit « Alors, c'était le bisou ?» Et je dis « Ben non, il n'y a rien eu. » Elle me fait « Non, mais vous êtes resté 10 minutes dans la voiture devant. Il s'est forcément passé quelque chose. » Je lui dis « Non, on discutait. Il m'a fait la bise, quoi. » Sur le moment, je me dis « Il n'a pas d'expérience. » J'ai pas la sensation de l'intimider ou de l'impressionner, parce qu'en plus, il parle beaucoup, il est pas du tout réservé, quoi. Loin de là. Et finalement, je me dis, bon, il faut que je lui donne un rendez-vous demain et qu'on parle, quoi. On crève l'abcès. Donc, je lui donne rendez-vous dans un bar à cocktail qu'on me propose. On discute, et là, j'ouvre un peu les vannes. Je lui dis, mec, enfin, voilà, jusqu'où on va aller, comme ça, on se voit, tu m'invites au resto, il y a quand même un truc romantique. Dis-moi si je me trompe, mais il s'installe quelque chose, donc je sais pas trop ce que tu cherches, en fait. Et là, il me le dit. Il me dit, bah, écoute, je t'avoue que la différence d'âge me bloque un peu. D'ailleurs, j'ai demandé à un copain comment on faisait pour draguer une dame. Et alors là, il me dit une dame, je tombe en arrière. Moi, dans ma tête, même si j'ai 30 ans, j'ai l'impression d'avoir toujours 5 ou 6 ans de moins. Donc je me dis, je suis pas une dame. Je n'ai même pas d'enfant, rien. Donc ça me fait rire. Je lui dis, c'est trop mignon, mais j'ai pas besoin de tout ça. En fait, tu peux juste rester naturelle avec moi. Et voilà, mais qu'est-ce que t'attends? Bah, je sais pas, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les trucs d'un soir. Donc... Bah quand je suis attirée par quelqu'un, j'ai envie de démarrer une histoire. Mais là, je sais pas. Je sais pas parce que ça me fait peur et parce que quand j'aurai 30, t'en auras 40. Quand j'en aurai 40, t'en auras 50. Je fais « Ah ouais, tu t'es déjà vachement projetée, quoi ». Et puis la soirée continue, on reparle d'autre chose. Et là, je me dis « Non, on est ressorti du sujet, il faut re-rentrer dedans ». Et là, je lui dis « Bon, en fait, là, je vais rentrer chez moi. Donc, est-ce qu'on se revoit demain ?» Et là, il me dit « Écoute, j'ai une folle envie de t'embrasser ». Et je lui dis « Bah, qu'est-ce que t'attends ?» Et il me saute dessus et on s'embrasse. Et là, l'histoire commence. Alors, le petit détail, c'est qu'après cette soirée, il part au ski pendant 15 jours. Et on se voit pas pendant 15 jours. 15 jours après, il m'invite au cinéma, donc déjà, je me dis... Il me rappelle, parce que je me disais, en fait, ça y est, il a eu un baiser et puis c'est terminé, quoi. Et non, il me rappelle, il me dit, j'aimerais bien t'inviter au cinéma. Donc, il m'invite au cinéma. Il est à nouveau en retard. Donc, je me dis, c'est un habitué des retards, alors qu'en fait, pas du tout. Je sais plus ce qu'il a eu comme problème à ce moment-là. Et il a pas sa carte bleue. Non seulement il est en retard, mais en plus, je paye le ciné, quoi. Donc, tout le côté romantique du début a disparu. Mais il s'excuse 1000 fois, etc. Et on passe quand même encore une bonne soirée. Et les jours passent et finalement, on commence une relation. Je me sens bien. Et je me dis, on s'en fiche en fait de l'âge quoi. Donc allons-y. Et lui, je sens quand même qu'il a toujours un petit peu peur et qu'il préfère pas projeter trop loin. Et à chaque fois, on se dit, tiens, est-ce qu'on se voit le week-end prochain? Et là, ça devient une blague. On se dit, tiens, si on est encore ensemble le mois prochain, peut-être qu'on pourrait faire un week-end. Et si on est encore ensemble cet été, peut-être qu'on peut partir à tel endroit. Mais voilà, on est un petit peu au jour le jour. Et on finit aussi par se présenter nos amis. Donc lui, il a rencontré les miens très vite, hein, quasiment directement. Et il m'invite dans les soirées chez ses potes. Là, je me dis, c'est quand même une preuve qu'il veut s'engager aussi. Sauf que la première personne que je rencontre me serre la main et me dit « Bonjour madame ». La gênance. Et il me raconte après qu'il a dit à tous ses copains, parce qu'il était un peu gêné, il a préféré leur dire que j'avais une différence d'âge avec eux, sauf que les trois quarts des gens me disent « Mais non, mais en fait, si Xavier ne nous avait pas dit ton âge, on n'aurait jamais fait gaffe que vous aviez 9 ans d'écart, quoi. » Donc moi, à partir du moment où ça ne gêne personne, bah je me dis « Pourquoi je me gênerais avec ça, quoi ?» Donc moi, je me sens bien. Et lui, je le sens super bien aussi. Et parfois, je sens qu'il s'éloigne un petit peu et réfléchit. Donc on relance le sujet, parce que moi j'ai beaucoup besoin de communiquer. Et ce qui est génial avec lui, c'est que pour un homme, ce qui n'est pas toujours fréquent, il communique aussi vachement. Donc au début, il est un peu sur la réserve, mais le lendemain, il vient et il dit « Ok, je veux bien qu'on parle de ça ». Et il dit tout, comme une nana. Il a un côté très féminin. Ce qui me rassure chez lui, ouais, c'est son côté mature, très responsable, et en même temps très déconnant. Il a l'âge qu'il a, donc parfois il est un peu foufou. En fait, il vrille. Il va parler de choses très sérieuses, de ses projets de travail, de ses projets futurs. Il me dit qu'il veut être manager à 30 ans, comme ça à 40 ans, il sera en retraite. Enfin, il a un truc déjà bien tracé. Et de l'autre côté, il est complètement fou. Il adore la musique parce qu'il est DJ aussi à côté. Il crée des musiques électro, donc il me dit « Ah, ce serait super bien de mettre ta voix dessus ». Il y a des moments où je me dis « Est-ce qu'il est avec moi pour ce que je suis ou pour ce que je fais ?» Donc ça, c'est aussi la question que je me pose de temps en temps. Un soir, je lui pose la question, je lui dis « Écoute, ça va être un peu cash, mais est-ce que tu es avec moi, pour moi, Nolwenn, ou pour un peu le personnage que tu as vu sur scène ?» Et il me dit « Non, mais pourquoi tu dis ça ?» Je dis « Parce que parfois, j'ai un peu cette sensation-là. » En plus, c'est sûr que quand il vient me chercher à la fin du show, les gens signent, me demandent de signer des autographes, on va boire un verre. Pourtant, je ne suis pas Madonna, hein. Je ne suis que Donna dans le personnage. Et il est arrivé que les gens nous coupent pour dire « Ah, je vous ai vu sur le show, est-ce qu'on peut prendre une photo ?» Et lui, je le vois, il a les yeux qui s'illuminent. Souvent il le dit, ouais, t'es ma star, je suis avec la star. Et là je veux lui faire comprendre que après Mamma Mia, quand ce sera terminé, ben il y aura peut-être plus rien, parce que c'est pas un métier facile et que des comédies musicales comme ça, il y en a pas 36 000 à Paris. Ouais, je suis pas certaine de rejouer dans une comédie musicale de ce genre. Je veux aussi construire ma vie de famille, donc ce sera pas forcément ma priorité tout le temps. Et en même temps, je veux pas lui faire peur, parce que il n'a que 23 ans, j'ai pas envie de lui dire « vas-y, mets-moi la bague au doigt tout de suite ». Donc c'est hyper touchy de parler tout ça, mais on en parle quand même, et petit à petit, au fur et à mesure des discussions, il me dit que non, qu'il adore tout ce que je suis, mais il est aussi honnête et me dit « je t'ai rencontré comme ça, et c'est ce qui m'a plu, et moi je suis trop contente de te voir sur scène ». Alors le temps passe, on part en tournée, il nous rejoint de temps en temps sur Mamma Mia. Et à un moment donné, on a 3 semaines de pause et il m'invite chez lui. Ah oui, parce qu'entre-temps, j'ai oublié de préciser, il vivait chez ses parents et à un moment donné, j'ai plus trop de nouvelles de lui. Je me dis qu'il s'éloigne. Et en fait, non, il est en train de chercher un appartement avec son papa et il refait tout un appart, sans me le dire. Et un soir, il m'invite dans l'appartement. Il peut être dans le zéro romantisme comme il peut tout donner d'un coup. C'est tout ou rien. Et un soir, il me fait croire qu'on va chez des amis avec une bouteille de vin. Et en fait, non, il m'ouvre la porte de son appart. Il a déjà mis les 2 brosses à dents. Il a déjà le double des clés. Et il me dit le premier « je t'aime ». Donc là, waouh. Et ça fait même pas un an qu'on est ensemble, presque un an qu'on est ensemble. Donc ça roule. Et quelques temps après, donc on fait les fameuses 3 semaines de pause pendant la tournée de Mamma Mia. Et je lui dis, ce serait cool qu'après Mamma Mia, peut-être on pense à essayer d'habiter ensemble. Alors pas tout de suite, je lui dis pas maintenant, mais d'ici 8 à 9 mois, quoi, pour voir. Et là, je sens que ça le stresse énormément. Et en plus, c'est un soir où je lui avais préparé à manger. Je lui avais fait un bain, j'avais tout fait bien, et peut-être trop bien, parce que là, je le sens pas bien. Et du coup, on discute comme d'habitude, et en fait, on passe la nuit à discuter, et il repart dans ses peurs, et il me dit « je sais pas où on va, je suis pas sûre, c'est compliqué ». Et on est tellement mal que le lendemain, lui, il va au boulot, il me laisse chez lui, et je sens la rupture. J'appelle mon frère, j'ai la chance d'avoir un frère avec qui on se raconte tout, je lui explique, je lui dis ce qui se passe. Et là, mon frère, qui est très très habitué aux relations... nombreuses relations, me dit en tant que mec, rends-lui ses clés. Il n'est pas prêt. Je fais, oui, mais c'est lui qui m'a donné des clés. Ouais, mais il n'est pas prêt. Donc, il faut que tu lui laisses le choix. Déjà, tu es plus âgé que lui. Si tu prends la décision d'habiter ensemble, bah, tu vas prendre le dessus sur lui. Lui, il a besoin de prendre sa place. Xavier, c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de montrer qu'il est un homme. Donc, il faut que ce soit son choix et pas le tien. Donc, je te conseille de lui rendre ses clés. Et là, il rentre dans l'après-midi et je lui rends ses clés. Et il vient tout blanc et me dit « On est en train de rentrer ?» Et là, je lui dis « Non, non, pas du tout. Enfin, moi, non. Juste, je te rends tes clés et tu me les donneras quand tu seras prêt. Mais je crois pas que ce soit le cas pour l'instant. On n'est pas pressé. Continuons comme d'habitude, quoi. » Et là, il me regarde avec un grand sourire et me dit « Toi, alors ?» Et là, il est reparti à 1000%. Merci, mon frère. Mais il a sauvé notre couple ce jour-là. Et puis le temps passe et je pars à New York en vacances, il me rejoint. Premier voyage, ça se passe super bien. Et il m'invite à partir en vacances avec ses amis. Et là, il a une espèce de gros déclic qu'il ne me dit pas tout de suite. Mais il se rend compte pendant ces vacances-là que je suis très sportive, que je suis toujours partante pour faire quelque chose, que je suis pas trop chiante, voire pas du tout. Enfin, j'ai pas la sensation d'être quelqu'un de compliqué au quotidien. Ça lui ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et en comparaison de ses amis qu'on adore, il se dit... Bah, finalement, c'est pas une question d'âge, puisque mes amies à moi ne me correspondent pas. Et elles sont dans une dynamique qui n'est pas celle que j'aime. Alors que ma chérie, qui est peut-être plus âgée, elle est vraiment toujours partante pour tout. Elle est un peu hyperactive comme moi. Mais pourquoi je me bloque, quoi? Donc à partir de ce moment-là, évidemment, il ne me le dit pas. Mais dans sa tête, c'est la femme de ma vie. Eh ben, on va se lancer. Mais il me dit rien. 2 mois passent et on arrive à la fin de Mamma Mia. On va au Zénith de Lille pour la dernière. C'est le jour de mon anniversaire. Et je vais avoir 35 ans et on se dit qu'après Mamma Mia, on va habiter ensemble. Donc c'est son choix. Il me dit « Ok, on va tester, on va habiter ensemble ». Moi, je suis contente, mais je ne sais pas encore si ça va bien se passer et s'il aura envie de continuer. Et le soir de mon anniv, donc on fait la dernière, il y a une fête de prévu. Je suis très malade ce soir-là, j'ai 39 de fièvre, des médicaments. Et à un moment donné, pendant la fête, après le show, il me dit « Si tu veux, je vais te chercher ta lisopaïne ». Je dis « Elle est à l'autre bout du zénith ». ».« Non, mais c'est bon, on bouge pas, je vais te la chercher ». Il s'en va et là, je rentre dans une espèce de bad trip. Je sais pas pourquoi, je me dis, j'ai 35 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. Et là, c'est moi qui doute. Je me dis, on va habiter ensemble et peut-être que ça va pas marcher. Et si ça marche pas, je vais devoir tout recommencer. L'enfer. Et puis, je l'aime, donc j'ai envie que ça marche, mais est-ce que lui, il aura envie? Et pendant tout ce moment-là, j'ai ma régisseuse qui vient et qui m'appelle et qui me dit, viens, je t'emmène sur scène, j'ai une surprise pour toi. Donc, je pars avec ma petite coupe de champagne et même mon verre de rhum pur parce que j'avais mal à la gorge. Et elle me pose sur scène, et là, je vois, ils avaient remis donc la scène avec le décor, une table, une bougie, une chaise. Elle m'assoit sur la chaise et elle s'en va. Et je me retrouve toute seule dans le zénith, vide, et j'aperçois l'attaché de presse qui est devant avec un iPhone et qui tremble comme une folle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'ai un truc, je pensais à quelque chose, mais je me dis, non, c'est pas possible. Et je vais en pleurer, dis donc. Et j'ose pas y croire, et en fait, si, les portes s'ouvrent et Xavier apparaît avec son costume, donc il s'est changé. Et là, je me dis, non, il va me faire une déclaration, il va me faire sa demande, non, c'est pas possible. Et si, et comme je suis malade, en plus, j'ai une espèce de j'entends, mais j'entends pas, et il me sort un discours qui n'a ni queue ni tête, parce qu'il est tellement stressé, qu'il me répète 10 fois, oui, c'est ton anniversaire, parce que c'est ton anniversaire. Enfin bref, il dit pas du tout ce qu'il avait envie de dire. Il est complètement maladroit, mais c'est trop mignon. Et là, je le vois poser un genou à terre et sortir une boîte avec une bague. Et en fait, à un moment donné, on voit que je m'approche, mais c'est pas du tout pour regarder la taille du caillou, je m'en fous. C'est juste pour m'assurer que c'est vraiment une bague, quoi, parce que je ne l'attendais tellement pas. Et voilà, et là, il me demande si je veux être la mère de ses enfants. Je trouve ça trop beau. Déjà, la femme de sa vie, j'aurais dit oui 1000 fois, mais la mère de ses enfants, c'est encore plus profond. Moi, je suis paumée. J'ai été en dépression 10 minutes avant et là, je me dis, il est fou, quoi. Il est déjà prêt alors qu'on ne s'est même pas installé ensemble. Mais j'ai pas d'interrogation. C'est lui, finalement, depuis le début, quoi. Je ne sais même pas si je dis oui à ce moment-là, mais je hoche la tête. Je hoche la tête plein de fois et il comprend que c'est oui, ouais. Et de là, on vit ensemble dans son studio, enfin dans son petit appart, ça se passe super bien. On se marie 1 an après. On a un mariage de taré, parce que tous les copains de la comédie musicale me font une chorale, comme j'en rêvais, une chorale gospel, mais avec mes amis, quoi. Moi, quand j'étais gamine, je m'imaginais un mariage avec une chorale à l'américaine. Et là, en fait, c'est tous les amis qui chantent de la mort qui tue. C'est notre histoire. Lui, il en peut plus. Il pleure pendant tout le mariage. Moi aussi, on a 10 000 mouchoirs. Et pendant le repas, on n'arrive pas à manger tellement on nous a préparé des surprises, toujours en lien avec le show. Super, d'ailleurs, on avait tout fait pareil. Hein. Enfin, les menus, c'était des partitions. Les faire-part, c'est Xavier qui avait tout fait d'ailleurs, parce qu'il aime bien créer plein de choses. Il avait fait des billets de théâtre. Donc, c'était vraiment tout en rapport avec notre rencontre. C'était chouette. Et si on pouvait revivre cette journée, on la referait sans problème. Et puis, bah, peu de temps après, je tombe enceinte de mon premier, qui naît en juin 2016. Et on décide de faire l'accouchement en musique. Donc, on demande aux sages-femmes si on a le droit de mettre de la musique pendant l'accouchement. Elles nous répondent, bah, si ça se passe bien, aucun problème. Et on met évidemment l'album d'Abba. On met tout Mamma Mia du début jusqu'à la fin. Ça se passe hyper bien. Les sages-femmes ont plein de problèmes dans les salles d'à côté. J'entends des accouchements sans péridurale et tout. Et puis elles arrivent ici et c'est un peu la pause, quoi. Elles dansent, elles nous racontent notre histoire. Elles disent « Ah, c'est super, moi je suis célibataire, j'espère que je vais vivre la même chose que vous. » Et au moment où mon fils arrive, on tombe sur la dernière chanson et c'est véridique. « Gimme a man after midnight » et il arrive à 1h du matin. Et là, c'est la fin de la chanson et la fin de l'album. Donc sur la dernière chanson, il arrive. On a notre premier enfant Malo, un an plus tard on a notre fille Clara. Voilà, on l'a fait naître sur le grand bleu, rien à voir, histoire de changer un peu. Et un ou deux ans après, on a notre petite dernière qui s'appelle Ambre et qui est née en plein Covid. Et encore une fois, je sais pas, notre histoire est folle, donc pas grand-chose à voir avec Mamma Mia, mais la sage-femme propose à mon mari de mettre au monde notre fille en quatre mains avec elle. Lui, comme d'habitude, toujours ouvert aux expériences, il dit oui. Et c'est fou, enfin, pareil, je m'en souviendrai toute ma vie. Je le vois en train de sortir mon bébé. Moi, j'ai zéro souffrance, je suis sous péridurale. Tout est super. Je me rappelle même plus ce qu'on avait mis en musique, parce qu'on avait mis la musique aussi. Et là, pareil, tout se passe bien. Après ça, on s'achète une maison. Enfin, c'est la vie rêvée, quoi. Et le petit truc, c'est qu'entre-temps, moi, j'ai arrêté quand même de travailler. En plus, il y a eu le Covid, donc j'ai fait des petits cabarets. Je fais deux, trois petites soirées de temps en temps, mais je suis pas à fond dans mon métier. Et mon mari me dit souvent « Ah, oh, ça me manque de pas te voir sur scène. » Et puis, je suis assez nostalgique de cette époque de Mamma Mia. Je donnerais n'importe quoi pour y revenir. Et en avril de l'année dernière, les auditions ressortent. Mamma Mia revient 10 ans après. Et c'est mon mari qui me dit « Vas-y, fonce, quoi. » Et je lui dis, mais attends, c'est pas possible, on a une famille, on a des enfants, toi tu travailles comme un fou, on pourra pas, logistiquement parlant, non. Et là, il me répond, si, il y a toujours des solutions. On va chercher une nounou, et vas-y, quoi, c'est le moment. En plus, là, pour le coup, t'as l'âge de faire le rôle, donc t'as toutes tes chances. Et j'y vais, en me disant, on peut me dire non. C'est pas parce que j'ai joué il y a 10 ans dans Mamma Mia qu'ils nous reprennent, hein, loin de là. Et puis finalement, les auditions se passent, super bien. Sauf que deux autres personnes passent avant moi, on leur propose le rôle avant moi. Mais ils ont quand même besoin d'une doublure alternante et ils me reproposent de faire la même chose qu'il y a 10 ans, mais en jouant le rôle une fois par semaine, en plus dans l'ensemble. J'accepte, je trouve la nounou et ça fait plusieurs mois là, que je joue et que je gère la famille à côté. Et voilà. J'ai un petit peu peur quand même à ce moment-là parce que je me dis, c'est super parce que la boucle est bouclée, mais espérons que ce ne soit pas le rêve de 10-12 ans et que ça s'arrête là. Je vais très très loin parce que je me dis, waouh, est-ce qu'il va gérer les enfants le week-end tout seul, plus le travail, pendant que moi je ne vais pas être là du mardi au dimanche? On connaît l'intensité du truc. Est-ce que finalement ça ne va pas créer des disputes, de l'incompréhension et terminer sur un divorce? D'ailleurs, je lui ai dit, il était là, mais ça ne va pas te dire ça! Non, mais il faut le prévoir, ça, il faut l'anticiper. Et encore une fois, on a discuté avant de faire la chose, en pesant vraiment le pour et le contre, pour éviter tout problème. Et en fait, ça se passe bien. Ça se passe super bien, il gère très bien. Alors, on se voit pas beaucoup, mais on sait que c'est éphémère. Ça s'arrête le 28 avril, donc c'est bientôt. Et moi, je suis contente quand même, parce que mon fils, par exemple, a du mal. Tout ça pour un spectacle. Alors, lui, pas du tout. Mamma Mia, il s'en fiche. Mes filles voient Barbie paillettes sur scène, donc c'est cool pour elles. Oui, la petite parenthèse, c'est que nos enfants peuvent voir où on s'est rencontrés, donc ça, c'est chouette. Donc, je suis heureuse de vivre ça maintenant dans la situation actuelle, mais c'est super intense, quoi. Trop. J'adore parler de notre histoire, déjà parce que nous, on est fans de notre propre histoire, on n'y aurait jamais cru nous-mêmes, donc souvent on en reparle tous les deux d'ailleurs. C'est ce qui nous rapproche aussi, à chaque fois qu'on se perd un petit peu, parce que comme tous les couples, hein, on a des disputes, parfois on n'est pas d'accord, souvent avec les enfants, parce qu'on a tellement de choses à gérer. Lui, il travaille comme un fou pour nous, donc la fatigue fait qu'on peut se perdre. On revient toujours à ça. On se dit, tu te rends compte la chance qu'on a eue de se trouver ? Si on s'était rencontrés des années auparavant, si j'avais eu le même âge que toi, ça ne l'aurait jamais fait. Donc faisons confiance au destin et partageons cette histoire avec les autres parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre entourage, mais même encore là sur ma mamie, j'ai des super copines qui sont encore célibataires à 30 et quelques années parce qu'on fait aussi un métier compliqué. Quand je leur raconte mon histoire, elles ont l'espoir. Elles se disent « Ah, ça existe alors ?» Et des mecs bien, ça existe aussi parce que moi j'en suis persuadée. Mais il y a souvent des histoires compliquées. Je me rends compte que des gens ont vécu des choses difficiles, mais qu'il n'y a pas que ça. Que ça existe aussi et qu'il faut garder la foi, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui, et j'en suis la preuve.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.